Alors on a une chance extraordinaire, nous sommes ici à Jérusalem, et Blanche et Paul, qui ont respectivement
votre âge
86.
C'est pas indiscret.
Oh bah, à mon âge, j'aurais honte.
86 ans et
92.
Qui sont venus pour un petit voyage de France à Jérusalem. C'est la deuxième fois de leur vie qu'elles viennent ici en Israël. Retour aux sources. Et on était maintenant dans une simcha chez des amis et j'ai appris que Blanche me dit qu'elle était dans la Shoah, m'a montré son bras. Et je me suis dit que ça valait la peine qu'elle parle devant la caméra. Elle m'a dit que ça fait des années que tout le monde la poursuit. Alors Blanche, à vous la parole.
Mais quoi dire, quoi?
Alors comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ben, ce qui s'est passé, que bon, quand j'étais arrêtée, nous sommes partis de Drancy. Nous avons été arrêtés à Drancy, ma mère et moi. Nous sommes partis de Drancy au bout de 10 jours, et dans des wagons à bestiaux, comme vous le devez connaître. Nous sommes partis à 1500 de Drancy. Nous sommes rentrés dans le camp d'Auschwitz, c'est-à-dire Birkenau, 180 hommes et 39 femmes. Le reste a été brûlé le jour même, dont ma mère. Arrivée dans ces lieux, il est évident que tout se bouscule dans votre tête, car c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on vous tatoue, on vous rase la tête et tout. Et sur le corps, et le plus humiliant que ce soit, un homme qui vous rase, qui rase les femmes, et dans le camp des hommes, ce sont les femmes qui rasent les hommes. Ça, c'est encore pour une humiliation de plus. Bon, arrivé naturellement dans le camp, et on vous donne votre bloc, vous savez pas où vous en êtes, mais une chose qui était formidable, c'est que moi, quand je suis rentrée, j'ai dit, moi, j'en sortirai. Et je ne savais, les autres m'ont dit, par la cheminée. Et elles avaient vraiment raison, parce qu'on ne pouvait qu'en sortir que par la cheminée. Mais Dieu était là, et Dieu m'a préservée. Donc,
je m'excuse de vous interrompre déjà. Vous me parlez de Dieu, vous êtes une femme croyante?
Non, je suis croyante, mais pas pratiquante.
Beaucoup de juifs qui étaient religieux en rentrant dans les camps sont sortis révoltés contre Dieu, non croyants. Et vous?
Ah oui, mais ça, c'était obligé, ça. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire?
On était en train de parler que dans la Shoah, donc vous me pouvez parler de Dieu, que vous avez grâce à Dieu. Attends, moi, j'ai tout de suite, j'interviens, parce que beaucoup de gens, après la Shoah, m'ont dit, il n'y a plus de Dieu. Qu'on ne me dise pas, Auschwitz et Dieu. Comment vous arrangez ces deux choses? C'est une question que beaucoup de gens se posent.
Je vais vous donner un fait de Dieu qui est encore très saisissant. C'est-à-dire que j'avais une amie du camp qui était toujours avec moi et tout ça. Et je ne sais pas si vous connaissez les sélections, mais les sélections, c'est-à-dire que vous passez devant des SS et ils vous choisissent. Et ils vous choisissent, c'est-à-dire que vous pouvez vivre ou mourir. Alors, vous ne le savez jamais quand il vous prend, si c'est le bon côté ou le mauvais côté. Or, j'avais une petite amie du camp qui, elle, n'était pas de mon côté. Et j'avais toujours un pressentiment, je ne sais pas comment, que moi, j'allais survivre. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là, je voulais qu'elle vienne avec moi. Mais comment, puisqu'elle était... Est-ce que j'ai fait... Parce qu'on passait devant, on devait se doucher, c'était toute une cérémonie, on était douché, tout ça, et on nous retirait les affaires et tout. Eh bien, ce que j'ai fait, vous m'excuserez de l'expression, j'ai uriné dans les mains et je l'ai mouillée pour qu'elle soit mouillée. Et c'est ce qui l'a sauvée.
Pourquoi mouiller, ça sauvait?
Comment?
Pourquoi, s'il était mouillé, ça...
Je ne savais pas. C'est ça qui est très incroyable. Je ne savais pas, mais celles qui étaient mouillées, c'est qu'elles étaient passées par à la douche et elles survivaient. Tandis que celles qui n'étaient pas mouillées, bon, elles étaient après dispersées dans un autre camp. Mais je ne savais pas. Et pourquoi? Mais parce que je ne voulais pas la laisser, parce qu'elle était déjà très, elle était très malade, je voulais l'avoir avec moi. Et c'est ce qui l'a sauvée. C'est la mère d'un...
Donc elle a survécu au camp, à tous les camps.
Elle a survécu jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire qu'elle avait 3 ans de plus que moi. Elle a, il n'y a pas tellement longtemps qu'elle est.
Vous avez sauvé la vie.
Bien, on ne va pas continuer sur ça. Et puis donc...
On avait commencé, vous êtes rentré dans les camps, là vous avez parlé de la présence de Dieu, et je vous laisse continuer. Oui.
Alors là, pour un fait qui est vraiment impensable, ce que je pourrais vous dire, comme je regardais tellement, que ça me... des faits. Je ne sais pas ce que, si vous savez, les sélections, les...
Si quand avez... tu partais au travail forcé.
Ah oui, ça, les travaux forcés, c'est-à-dire quand nous étions à Birkenau, on nous levait à 3 heures du matin pour avoir 3 heures d'appel et avec 34 ans sous zéro, sans rien dans le ventre et sans rien sur soi, c'est-à-dire une plure. Et il fallait résister.
Sans bouger.
Et puis, tous les jours, des corps qui tombaient par terre, des gorges paralysées par le froid, et on tenait. Comment qu'on tenait? On tenait. Je dis toujours qu'il n'y a pas plus fort que l'être humain, et il n'y a pas plus faible. Il est aussi faible qu'un fitu de paille. D'un rien, on peut l'abattre, et il est fort, plus fort que le fer. Le fer n'existerait pas, parce qu'un être humain peut résister.
Alors, de quoi ça dépend s'il est paille ou fer?
Alors, comment que je vous dirais comme fait que... Dans la journée, on la journée. Alors, bon, alors on allait travailler. Travailler, c'est-à-dire qu'il fallait dériver la vistule. Alors, vous savez, quand il fait 34 ans sous zéro, la glace, elle est dure. La terre encore plus dure. On nous donnait, il y avait des wagonnets, et il fallait remplir le wagonnet de terre pour dériver. On n'a certainement jamais rien dérivé. Mais alors, les Françaises, elles étaient très très fortes. Alors, quand on nous donnait soit un pieu, soit une pelle, le pieu était plus lourd que nous, le fait de lever le pieu, il était en bas plus vite que nous, on le posait. Et puis casser la glace avec un pieu, il n'y a que ceux qui sont sur la glace qui savent ce que c'est. Et puis la terre gelée, il n'y a rien de plus dur, c'est plus dur que la glace. Or, pour trouver de la terre, on arrivait à en trouver, on arrivait vers les 9h, 10h sur les lieux, et on en repartait le soir, parce qu'on n'avait pas de montre et tout ça, vers 5h. Eh bien, les Françaises ont été très très courageuses. Nous étions extrêmement courageux. Nous avions un wagonnet, il fallait remplir le wagonnet. Eh bien, nous, les wagonnets, on avait rempli peut-être 10 cm. Mais il y avait des Ukrainiennes, 4 Ukrainiennes, je ne sais pas combien d'heures, disons même 3 heures, étaient remplies à bord. Ça, on n'a jamais compris. La force des Ukrainiennes. Mais nous, les Françaises, on nous appelait les Parisaires Madame. Alors, on ne pouvait pas... nous, la terre, c'était dur. Alors, finalement, eh bien, un soir, on sentait qu'on devait rejoindre le camp, parce qu'on faisait peut-être 5 ou 10 kilomètres à pied encore, avec des sabots, dans la glace. Si vous savez ce que c'est que des sabots dans la glace, ça colle sur la glace colle sur le bois. Alors il fallait se taper les machins pour arriver, parce qu'on n'avait pas, on ne nous avait pas donné des bas bien pour avoir chaud. On était avec les jambes nues, on ne sait pas comment. Alors donc, quand nous sommes arrivés là sur le terrain, là je vous dis, on devait partir, et il y avait les wagonnets qui suivaient les uns derrière les autres. Or, l'oberge-Führer qui était en train de nous Diriger, et puis nous surveiller, enfin, par le fait. Et il était en train de regarder tout ça, et puis nous, on savait qu'on avait que ça. Voilà, que manque de chance, le wagonnet
se renverse.
Oh là là, on s'est dit, il faut déjà relever le wagonnet, et puis s'il voit que le wagonnet est tombé, il va se demander pourquoi, et puis il va voir qu'il n'y a absolument rien. Là, ça va être notre bonne journée. Il arrive avec un air, avec sa schlag, vous savez, un air habillé, impeccable, bien serré des bottes, bien serré des boutons, impeccable. Il s'amène comme ça et puis il nous regarde. J'ai bien vous dire qu'on n'avait pas envie de rire. Si on avait ri, parce qu'on riait énormément, au camp. Si on riait quand ça s'est renversé, je vous dirais que là, on ne riait plus. Il nous a regardés, il s'est retourné, il est parti. Parce qu'on croyait qu'on allait être tués sur le coup, parce que c'était ça, là-bas. Pourquoi qu'il ne nous a pas tués ? Encore un peu. Quand on réalise comme ça, on se dit, mais pourquoi moi ? Et pour les autres ? Bon, alors maintenant, un autre fait qui serait... Moi, je suis partie, je devais faire 55, 57 kilos, 58, je ne me rappelle plus. J'étais pas maigre du tout, j'étais bien rondouillarde. Et quand je suis revenue, je faisais 32 kilos. Et vous savez, je vais vous faire un vœu, c'est que quand on ne veut pas avoir faim, on n'a pas faim, c'est psychique. Car j'étais au camp pendant 2 années. La première année, on nous a amenés à Auschwitz, qui était à 3 km de Birkenau, pour nous mesurer les nez, les oreilles, nous peser, pour voir si c'était une race, si c'était... c'était ceci, cela, on nous a pesés. J'avais maigri 3 kilos en un an, sans manger, sans rien. Donc, la faim... Et quand on a faim, on maigrit. Si vous n'avez pas faim, vous ne maigrirez pas. Et la faim est très spirituelle. Ça, c'est très psychique. Il y en a qui se trouveront mal parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de manger, ils ont faim. D'ailleurs, je pense que les personnes qui sont très religieuses, quand elles font le jeûne, une fois par an, bon, une fois, ou même les Palestiniens, les Arabes qui font Ramadan, ils n'ont pas faim. Je ne pense pas que vous avez eu faim.
Pas trop.
Mais ça fait faim quand même.
Si on y pense.
Voilà. Ouais. Pourquoi y penser ?
Donc vous étiez dans les camps et vous n'aviez pas faim.
Je savais qu'on ne pouvait pas manger. Pourquoi voulez-vous que j'ai faim ?
Donc à Auschwitz, un an, vous n'aviez pas faim ?
Ah, je sais pas. Mais de tout ma durée du camp, j'ai jamais eu faim. Ben, vous savez qu'à la fin, on a terminé par Mauthausen, et les derniers jours, les 15 derniers jours, on ne donnait même plus à manger. Et quand nous sommes partis c'était entre Bergen-Belsen et Billigstadt, c'était encore un petit. On est resté 15 jours sans boire et sans manger. Comment vous restez dans un camp sans boire et sans manger, et des morts tous les jours, et qui restaient là parce qu'on était, on disait pas qu'ils étaient morts parce que comme ça, ça nous donnait de la place, parce qu'on était 150 dans les wagons. Comment qu'on fait ? On fait comme on peut, mais il faut avoir la foi, il faut avoir l'envie de vivre, et ça, c'est Dieu qui vous l'a donné. Un fait au camp, comme mes petites amies, moi, j'étais assez menuste dans le camp. Tout le monde était auprès de moi parce que je leur donnais un peu d'espoir, sans en avoir beaucoup plus pour moi, mais enfin, je leur donnais quand même de l'espoir. Alors elles aimaient bien. Eh bien, je leur disais, on va faire un très bon repas. Et on imagine un repas. Alors moi, je disais, je vous invite. Alors, je disais, je mets la nappe, je mets les serviettes, je mettais tout, mais un très bon repas, hein, quelque chose, très bien. Alors, ça lui faisait rire, évidemment. Alors, j'ai dit, alors, je vous invite, et puis je vais faire la cuisine. Voilà ce que je vais faire comme cuisine. Alors, je disais, et je disais comment que je la faisais. Comme si je la faisais cuire. Ça fait passer le temps, et ça me fait rêver. Alors, je faisais ça, et après, on mangeait. Et on donnait son avis, si c'était assez cuit. Mais quand je pense à ça, je dis, non, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas vraiment là quelque chose qui vienne pour nous prendre en scène, parce que c'était tellement comique et dramatique. Et ça, on l'a fait des dizaines de fois. Et à chaque fois, il fallait que je trouve d'autres menus, pas de quoi que je répète. C'était pas facile de trouver des menus encore, mais c'était incroyable. Alors un autre fait que je vais vous dire, ça c'était dans les derniers temps, il y avait eu, c'était les Hongroises qui ont été déportées, et il y en a eu 1600. Alors il y en a eu une partie qui était rentrée au camp, l'autre partie brûlée le jour même, et c'était vers la fin, hein, c'était malheureusement. Vers la fin, et peut-être 5-6 mois avant. Et ces femmes-là avaient beaucoup marché, et elles étaient exténuées, donc elles étaient à moitié mortes. On les avait mis dans un bloc, et puis dans ce bloc, elles mouraient. Comme il y en avait d'autres qui étaient à côté, mais vous savez, je ne sais pas, vous avez peut-être senti les morts, mais ça sent très mauvais, les morts. C'est malheureux, quand ils sont en putréfaction. Alors, il fallait que je... Nous, on était un petit commandant, il fallait les tirer. Alors, tirer déjà un mort, c'est déjà lourd. On n'était pas tellement fort. Pour que les autres puissent pas avoir cette odeur et sont morts à côté. Alors, on les tirait, on les mettait dehors. Il fallait les déshabiller pour les mettre dans un endroit, c'était comme un
fossé.
Je sais plus comment. Non, pas un fossé. Ah, non. Eux, ils les emmenaient comme un genre de traverse, comment on dirait, comme une grande brouette, mais une très grande brouette. Alors, on les mettait là-dedans. Mais pour les retirer les vêtements, je vous dis comment c'est, mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre le pied en haut de la colonne vertébrale, la dernière vertèbre. Vous prenez la tête, vous faites ça, toute la colonne vertébrale, elle se disloque. Et comme ça, vous pouvez retirer les vêtements facilement. Sinon, c'est impossible. C'est du bois, hein. Ou alors, il faut casser. Alors, déjà, de faire ça, il y avait une fille qui devait avoir dans les 23-25 ans, qui avait des yeux bleus. Des yeux bleus magnifiques, une petite jeune fille, une blonde, mais merveilleuse, Ashkenaz, mais avec le type bien marqué. Malheureusement, quand je l'ai défaite, le ventre avait explosé et tout était vert avec rien que des vers dedans. Malheureusement, j'ai attrapé le typhus avec tout ça. Et quand on rentrait dans notre bloc, les gens disaient qu'on sentait la mort. Et c'est vrai qu'on sentait la mort. Or, on nous donnait du pain. On leur donnait des rations de pain. Ces rations de pain, on ne les mangeait pas, mais on les troquait. Les autres ne savaient pas, ils mangeaient. Avouez que c'est quand même pas normal de faire ça. Vraiment, on était... Comment voulez-vous vous représenter ça? C'est très difficile. Vous pouvez vous représenter? Très difficile de ressentir. Alors, comme j'avais attrapé le typhus et que les gens qui étaient gravement malades, on les gassait, moi, je ne voulais pas être gassée. Ça, je ne voulais pas être gassée. Il n'y avait pas question, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas être gassée. Et puis, alors donc, comme j'étais comme ça tellement malade, que j'ai voulu aller au fil de fer barbelé pour être happée par ces fils de fer et mourir, et les quitter. Or, il y avait donc, c'était rempli de fils de fer entourés. Il y en avait un qui n'était pas très loin de notre bloc. Et il y a comme ça une petite butte de 1 mètre, disons, de hauteur. Je ne me rends pas compte, 80 cm. 1 mètre, avec peut-être 1 mètre de large. Si on montait sur cela, on l'était en paix. Un soir, j'ai dit, je vais y aller parce que je suis venue complètement sourde. J'avais maigri, c'est là que j'ai maigri peut-être, en 8 jours, j'ai peut-être maigri de 20 kilos. Mais du matin au soir, on me voyait maigrir. C'était par le typhus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils vont m'appeler et tout ça. Alors je croyais que mes camarades savaient et tout, c'était pour Dieu. Alors je suis allée et j'ai pas pu. Je suis revenue. Incroyable hein, de revenir comme ça. Et puis alors, après, il y a eu la libération.
Le typhus, comment on...
Voilà, je suis allée au Revire. L'hôpital s'appelait le Revire. Alors, je suis allée au Revire, et là, il y avait une Hongroise qui m'a... Je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Mais elle avait vu, j'avais des plaques sur la ventre et tout. Vous voyez, j'avais le typhus, c'était, ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Alors, elle me dit, voilà, tu vas prendre... Voilà, 3 cachets. Jamais su ce que c'était. Mais tu vas en prendre la moitié d'un le matin, la moitié d'un le soir, 3 fois, 3 jours différents, et tu vas voir, ça ira peut-être mieux. Moi, j'ai dit, puisqu'elle m'a dit surtout, prends pas plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 3 cachets. D'un coup. J'ai dit, comme ça, je vais mourir, comme ça, c'est encore plus facile. Eh bien, me voilà. Moi, j'ai toujours dit, je suis sûre qu'à bout portant, on me tuerait, je ne mourrais pas. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je vous donnerai encore comme fait? Bien pas l'esprit.
Qu'est-ce qu'on peut dire à la nouvelle génération?
Que ça ne recommence jamais. C'est odieux. Inhumain, il n'y a pas... Ça ne s'exprime même pas, ça peut pas, c'est irréalisable. Et malheureusement, il y aura autre chose, mais qui sera pareil, aussi grave. Ah non, mais j'ai d'autres faits, mais ça ne me vient pas à l'idée. Il y en a tellement.
Paul, vous avez quelque chose à dire?
Moi, personnellement, je n'ai rien à dire, mais... Je suis restée sans nouvelles, évidemment, de ma sœur pendant 2 ans, puisqu'il n'y avait aucune correspondance, absolument rien. Et j'ai eu une intuition le jour de Pentecôte, Goy, évidemment. Et ce jour-là, j'étais invitée chez un oncle pour passer la fête. Et étant donné que j'avais un pressentiment que ma sœur allait revenir, n'est-ce pas, j'avais des nouvelles. Alors on m'a dit, c'est pas possible, ça faisait 2 ans, j'avais pas de nouvelles, ceci, cela. Mais j'avais ce pressentiment. Et c'était un dimanche. Et ce jour-là, l'après-midi, en effet, un télégraphiste m'amène un télégramme, arrivée imminente. Enfance blanche, c'est tout ce que j'avais.
Incroyable, hein?
Et j'avais eu ce pressentiment, pourquoi ce jour, pourquoi à cette heure? Je ne sais pas. 2 ans sans nouvelles, et j'avais ce pressentiment. Alors, arrivée imminente en France, mais quand, comment? J'ai regardé sur le télégramme, c'était de l'Est, évidemment qu'elle revenait. J'avais mon mari avec moi. Nous sommes allés à la gare de l'Est, je voulais absolument y aller. J'arrive à la gare de l'Est avec mon mari. La gare de l'Est complètement fermée. Une nuée d'une population formidable, parce qu'il y avait tous les prisonniers d'hier qui revenaient à ce moment-là. Alors mon mari a été voir le chef de gare, c'était un capitaine, c'était encore
sous l'armée.
Oui, encore dirigé par l'armée, a expliqué notre cas. Il m'a fait rentrer dans la...
Mon mari et moi, dans la gare.
Dans la gare. Et il a dit, quand, vous savez, je ne suis pas revenue, je ne connais pas du tout, je ne sais pas. Il était 3 heures l'après-midi, ma soeur est arrivée à 3 heures du matin. Donc nous avons attendu, oui, parce que nous, on était, il y avait tellement de convois qui arrivaient, qu'on nous mettait. Alors nous, on est restés 3 heures à Pantin. Moi qui ne tenais pas debout, je voulais absolument même revenir à Paris. Je sais pas la peine d'attendre. Je rentre à Paris. Alors les autres n'ont pas voulu. Tu es folle, tu n'as pas de force, tu vois bien comment t'es. Tu vas pas tenir, tu vas tomber. Vous savez comment c'est dans ces cas-là. Finalement, je suis restée quand je suis arrivée à Paris.
À la gare de
l'Est. Tout d'un coup, j'ai mon beau-frère qui vient et qui me tape comme... Ah oui, non. Nous étions dans le wagon. Le wagon s'ouvre, il y a la Croix-Rouge qui arrive, et une autre, vous avez besoin des brancards, que c'est... Alors, mes camarades disent, non, alors, je dis, moi je veux un brancard, moi j'ai assez marché, moi je veux un brancard. Alors bon, on lui a dit, on va vous chercher un brancard. Et puis, mais je savais pas, et tout d'un coup, j'ai mon beau-frère qui me tape sur l'épaule, et qui me dit, je me retourne. Oh, ça, c'est gentil d'être venu me chercher. Comme si je venais de, vous savez, vraiment de villégiature. Moi, je reviens. Ça l'a toujours marqué. Oh, c'est gentil d'être venu me chercher. Alors, je suis partie. Toutes mes amies ont été à l'hôtel du Tessier. Moi, je suis revenue chez ma sœur. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a de très bons goyes. Quand on est sorti de la gare, évidemment, vu mon état...
Vous n'étiez plus en habit de prisonnier.
Aussi, ah oui, avec le paré, le cagé derrière, oui, avec les rayures. Et puis alors, il fallait voir l'habillement, enfin, parce qu'on avait des habits n'importe quoi. Mais un monsieur vient, il dit, vous permettez... vois que vous êtes est-ce que vous avez un véhicule? À ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Alors mon beau-frère dit non. Ben, écoutez, moi j'en ai un, vous allez me faire plaisir, je vais vous ramener. Alors on dit mais non.
Lui attendait son fils.
Oui.
Il a dit ça ne fait rien.
Il me dit faites-moi plaisir, ceci, il nous a amené. Et ben, c'est pas gentil.
C'est émouvant.
Oui. Mais un sur combien de millions?
C'est toujours un. C'est un sauvé.
Absolument.
Blanche et Paul, je vous remercie infiniment. J'étais très ému. Shabbat shalom à Jérusalem.
Merci.
Et à très bientôt pour la Géoula.